Donc nous sommes dans Lévitique, nous l'avons lu tout à l'heure, au chapitre 19, verset 18, et il aurait été intéressant d'effectivement commenter la première partie. Nous allons nous attarder uniquement sur la deuxième partie du verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique. L'amour du prochain tel que nous le voyons énoncé dans l'Ancien Testament, eh bien c'est le premier degré d'amour. Et quand je dis premier degré d'amour, c'est-à-dire le minimum. Ce n'est pas bien entendu un commandement uniquement réservé à l'Église, c'est un commandement universel, faisant partie de la loi morale de Dieu. Si chaque être humain aime quelqu'un d'autre, alors chacun sera aimé de quelqu'un. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que signifie ce commandement ? Il signifie que je dois désirer pour mon prochain ce que je désire pour moi-même, et que je dois faire le même effort pour procurer à mon prochain ce que je me procure à moi-même. Si j'ai de quoi manger et que mon prochain n'en a pas, l'aimer, c'est faire le même effort pour lui procurer de la nourriture que celui que j'ai déployé pour moi-même. Si je ne puis le faire, alors je devrais lui donner la moitié de ce que j'ai dans mon assiette. Si j'ai deux costumes et qu'il n'en a aucun, je dois faire le même effort pour lui procurer deux costumes que celui que j'ai déployé pour moi-même. Si mes enfants sont bien habillés, bien nourris, qu'ils vont à l'école, et que ceux de mon prochain ne sont pas dans la même situation, alors je dois faire le même effort pour ses enfants que celui que j'ai fait pour les miens. Voilà ce que signifie aimer son prochain comme soi-même. Et voulez-vous savoir quelque chose, frères et sœurs ? La plupart de nous, chrétiens, n'arrivons même pas à accomplir ce commandement de l'Ancien Testament. Nous ne nous aimons pas les uns les autres comme des prochains. Et bien sûr, quand je disais que c'était le minimum, Jésus n'a pas dit que nous devions nous aimer comme des prochains, mais souvenez-vous, la dernière fois on en avait parlé, il nous a demandé de nous aimer comme des frères. Or, si dans l'Église nous pouvions nous aimer au moins comme des prochains, il ne fait pas de doute que ce serait le début d'une révolution et d'un témoignage extraordinaire pour le monde. Dans chaque communauté, et en particulier dans la nôtre, on trouve des gens qui ont trop et des gens qui n'ont pas assez. Un croyant possède une grosse voiture et quand il rentre chez lui, il trouve une maison cossue avec un steak dans son assiette. Et le croyant assis à ses côtés retourne chez lui à pied et devra se contenter de pain sec et d'un bol de café. Pourtant, ils chantent ensemble combien ils s'aiment et à la fin de la réunion, ils se saluent et se disent « Que Dieu te bénisse, mon frère !» Puis chacun s'en va de son côté. Quand on demanda à Jésus « Qui est mon prochain ?» Souvenez-vous, Luc chapitre 10. Jésus répond par la parabole du bon samaritain. Enfin, du bon samaritain. Ça, c'est nous qui l'avons dit. Jésus ne dit pas que c'est un bon samaritain. Nous appelons cette parabole la parabole du bon samaritain. Et combien de fois ai-je prêché sur cette parabole en la spiritualisant ? On en parlait tout à l'heure, quand Pierre disait qu'on spiritualisait parfois trop les choses. Jérusalem, c'était l'Église. Jéricho, c'était le monde. L'homme qui descendait à Jéricho était le croyant qui quittait l'Église et qui retournait dans le monde. Les brigands, c'était Satan et ses démons. Et le bon samaritain était le frère qui le ramenait à l'Église. Ouais, ça colle, ça colle. N'était-ce pas une manière commode de fuir mon devoir que d'interpréter cette chose comme cela. Une autre fois, j'avais une interprétation différente. Jérusalem, c'était le jardin d'Éden. Jéricho, c'était la chute de l'homme. Et Jésus était le bon samaritain, etc., etc. Comme c'était une façon commode de fuir mon devoir. Les interprétations ne manquent pas sur cette parabole. Il y a d'autres paraboles où effectivement le sens est un petit peu plus caché, où Jésus volontairement voile l'interprétation de la parabole. Mais pas dans celle-là. Jésus conclut en disant au légiste qui lui avait posé cette question, « Va, médite à fond dessus pendant une semaine, un mois, une année si tu veux, réfléchis bien, réfléchis et tu me donneras l'interprétation. » Est-ce qu'il dit cela ? Non. Il dit « Va, et toi, fais de même. » Va et toi, fais de même. Il voulait dire par là que lorsque nous voyons quelqu'un dans le besoin, il nous faut répondre à ce besoin. C'est très clair. Il n'y a pas besoin de spiritualiser cette chose-là. Mais nous, et moi le premier, nous passons à côté de gens qui souffrent et nous nous contentons de rentrer chez nous et de dire à notre époux, à notre épouse, « Oh chérie, j'ai vu une chose terrible aujourd'hui. Un pauvre homme, il me faisait vraiment pitié. Cette bonne pitié, tu sais chérie, cette pitié qui me serre dans mes entrailles. » Et on excuse notre conscience parce qu'on a eu pitié. Et on pense qu'on a bien fait. Mais non, on ne fait rien. On ne fait rien. Le Samaritain n'était pas quelqu'un de spécial. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est nous qui l'avons surnommé le bon Samaritain. Jésus ne dit rien de ce genre. Il commence au verset 33 en disant « Un Samaritain qui voyageait arrivait près de lui. » Il ne faisait qu'appliquer l'Ancien Testament, ce vieux commandement. Il laissa de l'argent pour payer les soins apportés aux blessés, puis il poursuivit son chemin et souvenez-vous, il dit à l'aubergiste « Et si tu as encore des frais, dis-le-moi, je te paierai. » Et nous, on en est loin hein, de ça. Hein. On est si mauvais par comparaison. Alors lui, si on devait se comparer à lui, oui, effectivement, il était bon. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. La même chose se reproduit dans nos églises aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ce genre de conversation. Il y a un prédicateur ou un pasteur qui vient vous voir et qui dit « Oh, je voudrais te présenter un diacre, un très bon diacre. Tu vas voir, je vais te le présenter. Très bon diacre de mon église. » Et puis vous vous dites « Ah bah oui, je veux rencontrer cette personne. » Et puis vous discutez avec le pasteur, le prédicateur et puis ce très bon diacre. Et puis à la fin, vous demandez au pasteur « Bah oui, c'était très chouette de parler avec ce diacre. Mais pourquoi m'avoir dit que c'était un très bon diacre ?» Et le prédicateur pourrait dire « Bien, parce qu'il vient à toutes les réunions, il donne sa dîme, il m'aide à chaque fois que j'ai besoin de lui. » Mais ça, c'est pas un très bon diacre. C'est pas un très bon enfant de Dieu. C'est un diacre normal. C'est un enfant de Dieu normal. Mais quand une personne est proche de la normale, nous disons qu'elle est bonne. Dieu ne serait-il pas heureux s'il pouvait faire de nous tous des Samaritains normaux ? Souvenez-vous, la dernière fois, on parlait de la lumière. Je vous disais que la lumière n'était pas forcément, et n'était pas, à mon sens, dans la Bible, une révélation de connaissance, mais bien autre chose. En Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus a dit « Que votre lumière brille ». Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que la lumière ? Qu'est-ce qui produit ces œuvres bonnes ? C'est l'amour. Comme je vous l'avais déjà dit la précédente fois, la lumière de Dieu, c'est l'amour. Alors, on va en venir, on est à peu près à 10 minutes, c'est bien, il y a le chronomètre sur l'enregistreur. On est à peu près au milieu de la prêche et J'en ai un petit peu marre de vous parler et de ne faire que vous parler. Alors, on va maintenant faire une application très concrète de ce que nous venons d'entendre. Quand nous parlons d'amour ou de toute autre chose dans la Bible, il nous faut être précis. Sinon, ce sera comme quand on coud et qu'on oublie de faire un nœud au bout du fil. Je parlais de ça avec Simon dimanche dernier quand on fait des sutures. Imaginez, vous qui faites de la couture ou de la suture, j'espère plus de couture que de suture, mais si vous oubliez de faire un nœud au bout, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous avez coud, hein, mais ça ne va pas tenir. Vous pouvez coudre indéfiniment, mais les choses resteront telles quelles. Je peux vous parler pendant 8 heures de suite sur l'amour. Si vous ne faites pas de nœud au bout, tout va se déliter. Parfois même, on essaye de coudre sans fil. Et on ne fait que des petits trous dans la peau ou dans le textile. On essaye de coudre qu'avec l'aiguille. Et tout ce qu'on réussit à faire, c'est une série de petits trous. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Ah, c'est vrai, il me rappelle quelque chose, une faiblesse dans mon cœur. Oh, il est embêtant avec toutes ces questions. Les petits trous. Le vêtement reste déchiré, la peau reste béante. Parce que nous n'avons pas pris de mesures précises pour que nos actes soient enfin empreints d'amour. Dieu ne dit pas « aimez vos prochains ». Ah bon, t'es sûr, il n'a pas dit ça ? Non, pas exactement. On ne peut pas aimer le monde entier. Enfin, on devrait pouvoir, mais commençons par le minimum. Dieu dit « aime ton prochain » et pas « aimez vos prochains ». Il dit « aime ton prochain ». Alors, on va le faire maintenant. Pensez à une personne, ou une famille, si vous voulez. Allez-y, pensez. On n'est pas dans la parlotte, on y pense. Vous avez quelqu'un ? Si vous avez quelqu'un, levez la main, je ne vous interroge pas, c'est promis. Pensez à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est dans votre cœur. Allez, plus de mains, plus de mains. Je ne vous interroge pas, c'est sûr. C'est bon, vous avez cette personne-là à l'esprit? Commencez à prier pour cette personne. Allez-y, priez. Commencez à vous intéresser à son problème, à son besoin, qu'il soit spirituel, matériel, psychologique, toutes sortes de besoins. Priez pour cette personne. N'allez pas le trouver avec un tract, vous donnerez l'impression d'être un démarcheur. Allez-vous vendre vous-même. Allez-vous donner vous-même à eux. Faites-leur voir que vous les aimez et offrez-leur votre service. Vas-y, aime-le. Aime-le. Et peut-être dans ton cœur, tu te dis, mais Dieu n'a pas mis assez d'amour en moi pour cette personne. Mais n'accuse pas Dieu, c'est toi qui le freine. Laisse le canal d'amour de Dieu te nourrir de son amour pour cette personne. Je vous invite à continuer de prier pour cette personne à laquelle vous avez pensé. Mais ne faites pas que prier pour cette personne. Aidez, aimez. Je vous raconte maintenant l'histoire d'une dame d'un certain âge. Et comme elle le disait souvent, « Ah, je suis incapable de gagner une âme à Jésus ». La formule est un peu mauvaise, n'est-ce pas? Mais elle le disait comme ça. « Je suis incapable de gagner une âme à Jésus. » Et cela faisait des années qu'elle était dans l'Église. Puis un jour, elle a décidé de montrer son amour. Elle a décidé de ne plus faire simplement que de prier pour une personne, ce qui est déjà très bien. Elle a décidé de montrer ce genre d'amour. Elle comprit que Dieu n'avait pas envoyé un tract depuis le ciel. Ou juste une tape dans l'épaule en disant que Dieu te bénisse. Et c'est déjà bien de le faire. Non, il avait envoyé son Fils, qui était venu vivre avec nous et apportant la guérison. Il nous a aidés en partageant notre vie. Alors, cette femme a décidé de faire la même chose. Elle a décidé qu'elle pouvait en faire de même. En face de chez elle, il y avait une maison à louer. Et dès qu'arrivèrent les nouveaux locataires, elle était prête. Et peut-être que vous, vous êtes prêt à agir envers la personne à laquelle vous avez pensé. Dès qu'arrivèrent les nouveaux locataires, elle était prête. Elle traversa la rue avec un tract. Non. Avec du café et des gâteaux.
Oh, que ça ?
Attendez la suite. Et elle leur dit, je vous apporte quelque chose à manger parce que je sais que vous venez d'emménager et que vous n'avez sûrement pas encore réussi à déballer tout le nécessaire pour préparer à manger. Je reviendrai tout à l'heure pour chercher la vaisselle. Ne perdez pas votre temps à la faire, je sais que vous êtes occupé. Et tant que j'y pense, l'épicerie se trouve au coin de la rue Intel et elle commençait à leur parler, à les aimer. Elle ne glissa pas un tract sous le gâteau. Elle apporta de la nourriture tout simplement et offrit de les aider, de les aimer. Au bout d'une heure, elle revint chercher la vaisselle en ajoutant « Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, je suis là et ce sera un plaisir de vous aider. » À aucun moment, elle ne prêcha sur Christ. Je ne dis pas que c'est une méthode qu'il faut faire absolument, c'est pour vous montrer le genre d'amour qu'on peut avoir envers nos prochains. Un mois plus tard, toute la famille se fit baptiser à cause de la lumière qu'elle avait apportée. Jésus n'a pas dit « Laissez votre bouche parler devant les hommes afin qu'ils puissent entendre vos belles paroles et glorifier votre Père ». Il n'a pas dit ça. Il a dit que votre lumière brille, que votre amour brille. Peut-être certains d'entre nous avons quelques difficultés envers ce concept parce que nous avons été imprégnés d'un évangile anticatholique. Nous avons ôté toute importance aux bonnes œuvres. Et je voudrais mettre un point sur le « i ». Les bonnes œuvres ne sauvent pas, frères et sœurs. Je suis bien clair là-dessus. Mais elles manifestent la grâce de Dieu en vous. Nous avons ôté parfois l'importance des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, disons-nous, et je dirais, pour provoquer un petit peu, que c'est une moitié de vérité. Car en Éphésiens 2, on lit « Nous sommes aussi créés en Christ Jésus pour des bons sermons. » Ah non, non, c'est pas ça qu'il dit. Éphésiens chapitre 2, verset 10 « Nous sommes créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes. » Nous lisons à propos de Corneille en Actes chapitre 10 tout le bien qu'il avait fait et nous aimons à souligner que ce n'est pas pour autant qu'il était sauvé. Et c'est vrai. Mais remarquez, Actes chapitre 10 verset 4, que Dieu envoya un ange auprès de Corneille. Pourquoi ? Parce que tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Ça, c'est l'autre moitié de la vérité. Les bonnes œuvres sont la démonstration effective de notre amour. Et parfois, parce que nous sommes trop mystiques, parce que nous sommes trop théoriques, nous disons « Oh, frère, je t'aime ». Mais nous ne manifestons pas cet amour autrement qu'avec des sourires et des accolades. Les bonnes œuvres, ce sont des œuvres bonnes. Des œuvres, cela veut dire « œuvrer ». C'est important de nous encourager comme nous le faisons actuellement, mais ce n'est pas suffisant. Œuvrer, agir, et non pas seulement une façon de penser mystique. Il nous faut ouvrir les portes de notre cœur et faire les œuvres bonnes. Voir et faire. Voir le besoin. Prier pour cela et faire. Bien entendu, il y a une différence entre les œuvres bonnes faites par amour et les œuvres bonnes faites par la chair. Combien de fois on a fait des choses à reculons, on s'est forcé et on est resté dans cet état d'esprit. Ah, il faut le faire. Bon, ben, je le fais, mais vraiment, un tel aurait pu le faire mieux que moi et vraiment, il exagère. Il avait plus de temps que moi pour le faire. Ça, c'est des œuvres bonnes, ça reste des œuvres bonnes, mais faites selon la chair. Paul dit bien que même si on donne tout notre argent pour aider les pauvres, si nous n'avons pas l'amour, c'est du bruit. C'est rien. C'est rien du tout. Je voudrais terminer en vous invitant vraiment, je ne vais pas finir par une bonne formule parce que j'en ai marre, des bonnes formules, mais je voudrais vous inviter vraiment à faire la chose à laquelle vous avez pensé pendant votre moment de prière, et bien au-delà, parce que Dieu vous en donne capable, vous en donne les forces, il vous rend capable de le faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon introduction, il y a très exactement 21 minutes, j'ai dit que c'était un commandement de l'Ancien Testament, et c'est vrai. Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Le Christ qui parle. « Aimez-vous les uns les autres. » Ah tiens, bah, il dit pareil, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas un commandement nouveau. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors frères et sœurs, ça c'est peut-être ma prochaine prédication pour le moment. Aimez votre prochain comme vous-même. Et ça sera déjà bon signe. Et Dieu prendra du plaisir à vous voir œuvrer. N'oubliez pas que nous devons aimer notre prochain, pas là-dedans, mais là-dedans, avec notre cœur. Si Dieu avait choisi d'utiliser notre service uniquement par l'intellect, on n'aurait pas de corps. Dieu nous a donné deux mains, deux pieds. Il faut nous en servir pour aider les autres. N'oubliez pas que nous devons aimer notre prochain. Et ça commence ici et maintenant. Amen.